Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était à Moscou aujourd'hui au menu des discussions avec Vladimir Poutine. La Syrie où les Russes et les Turcs sont présents militairement et ont des objectifs et des visions peut-être un peu différents pour l'avenir du pays ravagé par la guerre depuis 8 ans. La situation a changé depuis l'annonce surprise par Donald Trump du retrait américain de la coalition qui soutient les forces arabo-kurdes. Cette décision, même si elle a été tempérée depuis sur le rythme du retrait, pose question aux autres membres de la coalition internationale qui soutient notamment les Kurdes. Parmi ces pays, il y a la France qui dit vouloir rester sur le terrain. Faut-il rester en Syrie? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Michel Goya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et stratégiste. Et Georges Malbruno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. L'objectif affiché de la France en s'engageant dans la coalition en Syrie, c'était la lutte contre le terrorisme et en particulier contre l'organisation État islamique. Donald Trump dit que c'est terminé, que l'objectif est atteint. Où est-ce qu'on en est pour de vrai de cet objectif, Michel Goya?
Alors, c'est... Donald Trump dit effectivement que la victoire est acquise. Bon, il faut se méfier un peu de ces déclarations. Hein. Un de ses prédécesseurs avait annoncé une mission accomplie quelques semaines après l'entrée en Irak, et alors que les choses sérieuses n'avaient pas véritablement commencé. Non, mais là, il y a surtout une confusion entre la victoire contre l'État islamique ou la destruction de l'État islamique et la fin de son territoire. Donc, effectivement, sur le terrain, les derniers bastions tenus par l'État islamique ont été conquis. De fait, l'État islamique, en Irak et en Syrie, ne contrôle plus de territoire ouvert. Vous n'avez plus de drapeau de l'État islamique sur la carte. Bon. Maintenant, c'est pas pour autant que l'organisation est détruite. Elle est revenue à un statut clandestin, ce qui a été la norme pendant la plus grande partie de son existence, en réalité. Et elle multiplie les attaques, d'ailleurs, en Syrie, y compris contre des Américains récemment. Donc, l'État islamique... Mais la France fait sensiblement la même confusion. Hein. Entendu la ministre de la Défense, Florence Parly, dire, voilà, on reste là jusqu'à la fin du boulot, mais on ne précise pas ce que c'est que la fin de la victoire contre l'État islamique. Hein. On ne précise pas du tout ce qu'on va faire par la suite.
Georges Malbruno, le président de la République, a dit lors de ses vœux aux armées il y a quelques jours à Toulouse que la France allait rester en adaptant sa présence. Ça veut dire qu'il fait peu ou prou la même analyse que le président américain?
Il y est contraint parce que les Américains avaient 2000-2200 hommes, la France en a 200. La présence militaire française en Syrie dès lors qu'il n'y a plus d'Américains est un contresens militaire. Michel est un ancien militaire. Nos troupes là ont besoin d'un ravitaillement, d'un support américain. Ils ne l'auront plus. Donc ce qui va se passer vraisemblablement, c'est que ce retrait va être étalé sur 2, 3, 4 mois, et que, eh bien, ensuite, les Français quitteront, lorsque, comme Michel l'a dit, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de territoire. Il restait un ou deux villages près de la frontière irakienne, entre les mains de Daesh. Ces villages ont été repris par la coalition arabo-kurde. Ensuite, ce qui va se passer... Trump l'a dit, Pompeo l'a dit à Bagdad, et les Français Parly a commencé de le dire, eh bien, le combat se poursuivra, avec, y compris, des forces spéciales qui resteront là-bas, mais les forces spéciales, par définition, elles n'existent pas, et puis le combat se poursuivra à partir de l'Irak, où là, effectivement, la France compte bien garder des troupes, et donc, voilà, le combat se poursuivra, mais... la question n'est pas de savoir s'il faut rester ou pas, c'est qu'est-ce qu'on y fait aussi si on reste. Or, on peut pas rester avec 200 hommes entourés d'ennemis, sachant même que, vous y avez fait allusion, mais il y a une question qui n'a jamais été posée d'ailleurs à Emmanuel Macron. Nos hommes aujourd'hui qui sont sur le terrain, si demain il y a une offensive militaire turque comme Erdogan en menace, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent sur nos alliés turcs, ils tirent sur les Kurdes qu'ils sont censés protéger, ou ils partent en courant?
Michel Goya, je fais appel à votre qualité d'ancien militaire qui nous a été donnée par Georges Malbruno. Est-ce que la France peut techniquement rester si les États-Unis s'en vont? Est-ce qu'elle est logistiquement dépendante des forces américaines?
Oui, dans l'occurrence. Alors en finance, on dit c'est lorsque la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus. Et là, effectivement, quand les Américains décident de se retirer, on se révèle d'un seul coup tout petit. Effectivement, alors, la présence américaine militaire sur le terrain, c'était plus de 2000 hommes. Donc c'est une présence relativement conséquente. Et puis ensuite, il y a un aspect purement militaire, tactique, mais il y a un aspect politique aussi. C'est-à-dire les Américains sont là, tout le monde le sait, et on fait attention. Quoi. Donc tuer des Américains, c'est quand même un peu compliqué et donc tous les acteurs de la région à part l'État islamique font quand même un peu attention, même s'il y a eu des accrochages y compris avec les Russes d'ailleurs l'an dernier. Bon, avec 200 Français d'un seul coup qui se retrouvent tout seuls, là, pour le coup, la masse critique, elle est plus là, quoi. Je suis pas sûr qu'on ait le même effet de dissuasion sur les acteurs de la région. Et puis ensuite, effectivement, on est complètement dépendant du système, je veux dire, de guerre dans la coalition des Américains. Les Américains font 80% du boulot dans la coalition.
Les forces spéciales françaises, est-ce qu'elles sont en danger après l'annonce du retrait américain? Est-ce qu'elles sont directement menacées par la recrudescence des attaques qui ont lieu dans le nord de la Syrie, Georges Malbruno?
Elles seront ou elles seraient en danger lorsque les Américains auront quitté, puisqu'elles dépendent de ravitaillement pour les blessés, pour la nourriture américains. Les hélicoptères, c'est les hélicoptères américains qui les ravitaillaient. Ensuite, elles resteront après pour traquer certains djihadistes. Elles sont là pour traquer aussi les djihadistes français qui sont là-bas.
On en parlait,
c'est très important. Mais elles ne pourront pas rester longtemps. Et puis, il y a aussi un facteur qui explique aussi. Trump, on s'est beaucoup effectivement interrogé, on a beaucoup critiqué. Effectivement, l'annonce est tombée de manière un petit peu abrupte, mais enfin, elle n'a surpris que ceux qui voulaient être surpris, parce que il avait annoncé qu'il comptait retirer ses hommes de Syrie, etc. Donc, en plus, d'un point de vue stratégique, en Irak en 2003, vous aviez 140 000 soldats américains pour stabiliser une situation qui n'a jamais été stabilisée. D'après les experts militaires, il en aurait fallu trois fois plus, 450 000. Ce n'est pas avec 2000 hommes que les Américains allaient peser dans la balance en Syrie. Effectivement, ils pouvaient... Alors, effectivement, après, il y avait la protection de nos alliés kurdes qui ont pris une part importante dans le combat contre Daesh. Mais là, on en reparlera. Là aussi, les alliés kurdes auraient dû peut-être aussi eux-mêmes réfléchir à deux fois avant de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ben, c'est un petit peu ça qui est la faute qu'ils ont commise.
Michel Goya, Jean-Marc Bruno l'évoquait, le travail des forces spéciales françaises, c'est de la recherche pratiquement ad hominem des djihadistes français, hein, pour les empêcher de revenir, tout simplement.
Oui, alors c'est pas le seul. Non, c'est pas la seule mission. Ils sont là pour conseiller, aider les forces démocratiques syriennes qui sont essentiellement kurdes. Ils sont là pour aider aussi aux frappes aériennes,
marquer des cibles,
exactement, ou même la batterie d'artillerie française qui est juste à côté. Hein, on l'oublie un peu, mais il y a une batterie d'artillerie qui est juste à la frontière aussi. Et puis, effectivement, si par hasard on tombe sur des djihadistes français.
Connus des services,
bien sûr. C'est aussi bien si ces gens-là cessent de nuire.
Mmh. Pour les Kurdes, on en parlait, la confiance envers les États-Unis est brisée. Et vis-à-vis des autres pays de la coalition, et notamment la France, est-ce qu'il y a des rapports un petit peu différents, Georges Malbruno?
Les Kurdes, François Hollande était très pro-kurde, hein. On le voit d'ailleurs, chaque fois que les délégations kurdes viennent à Paris, ils vont lui rendre visite. Avec la France, effectivement, les Kurdes ont noué une relation assez forte, même si, il y a quelques années, dans les couloirs du Quai d'Orsay, on ne se privait pas de critiquer les Kurdes qui, il faut le rappeler, hein, en 2012, en accord avec le régime syrien, ont laissé le régime syrien partir et n'ont jamais rompu. Hein. Il y a un petit aéroport sur lequel je suis allé l'an dernier, à Kamishli, qui est une ville kurde. Il y a encore un aéroport tenu par le régime syrien. Donc il y a un modus vivendi entre les Kurdes et le régime syrien.
Il y a un échange. Hein.
Il y a un échange parce que les Kurdes, de manière réaliste, sont syriens et ils ne réclament pas un État kurde. Simplement, le tort qu'ils ont eu, à mon sens, c'est d'avoir mis leurs œufs dans le même panier américain, d'avoir pensé que l'État profond américain, la CIA, le Pentagone, le State Department, quel que soit le président américain, eh bien, continuerait de les soutenir. Alors là, ils n'ont pas. Et puis, d'avoir dit non aux Russes, il y a un an exactement, lorsqu'il y a eu l'offensive turque sur Afrin, où les Russes leur ont dit, écoutez, si vous voulez éviter une défaite, ben vous avez un choix qui est peut-être pas forcément tout à fait plaisant, c'est de troquer votre tenue de combattant kurde contre une tenue, eh bien, de l'armée syrienne. Ils ont refusé, et s'ils avaient accepté, je pense qu'Afrin serait toujours probablement entre les mains des Kurdes. Et aujourd'hui, une des conséquences de ce lâchage américain, on l'a bien vu immédiatement, il y a une délégation kurde qui est allée à Moscou et on discute d'un retour des Kurdes dans le giron syrien.
Oui, Michel Goya, il se tourne clairement vers Damas, les forces kurdes, pour se protéger de la Turquie, quoi, tout simplement.
Oui, oui. Alors, en fait, ils n'ont pas beaucoup de choix. Hein, mais comme le disait Georges, d'abord, ce sont été des alliés de fait. Hein, ils se sont pas affrontés, hein, les Kurdes avec le régime d'Assad. Et maintenant que ce régime a pratiquement vaincu la rébellion arabe, hein, qui est là, Assad, la guerre contre cette rébellion est presque terminé. Il y a encore la poche d'Idlib, il y a encore HTS, etc. Mais bon, là, on est rentré déjà dans une phase où, effectivement, la question kurde, quoi qu'il arrive, même si les Américains n'étaient pas partis, la question kurde allait se poser sérieusement. Donc là, oui, pour les Kurdes, il y a guère d'autre choix que de se remettre sous la protection du régime d'Assad. Alors, selon quelles conditions, ça c'est à négocier. Maintenant, là aussi, rien qui ne fût en réalité prévisible. Hein. Les Américains n'avaient pas vocation non plus à rester éternellement. Hein. Ils restaient, quand on regarde les objectifs des Américains, tels qu'ils étaient annoncés par les conseillers John Bolton et autres, on dit « Pourquoi vous êtes en Syrie ?» Ils disent « Un, c'est pour lutter contre l'État islamique. Deux, c'est pour faire pression sur l'Iran et parce qu'il y a plusieurs guerres qui sont enchaînées là, dans cette région. Donc
oui, c'était la stratégie d'influence iranienne dans la région.
Le premier objectif était souvent plus. On parlait beaucoup plus de l'Iran que des Kurdes en réalité. Hein. Et puis l'alliance avec les Kurdes, ça n'apparaissait en réalité assez peu. Quoi. Ils ne sont pas là pour le cœur des Kurdes, hein, très clairement.
Qu'est-ce que négocient aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine à Moscou, Georges Malbruno?
Il négocie la création, enfin en tout cas d'un point de vue turc, Erdogan a affirmé il y a quelques jours qu'il souhaitait, après en avoir parlé avec Donald Trump, l'établissement d'une zone de sécurité le long de la frontière syrienne, à l'intérieur du territoire syrien, sur une profondeur quand même de 32 kilomètres. Cette zone engloberait pratiquement 80% de la population kurde. Pour neutraliser justement les Kurdes liés au PKK. Je suis même certain que les Russes ne sont pas favorables à cette option qui impliquerait donc une occupation militaire turque en Syrie. C'est la raison pour laquelle les Russes, auprès desquels les Kurdes sont allés, vont essayer de convaincre les Kurdes d'accepter un modus vivendi, donc avec Damas, c'est-à-dire, d'ailleurs, les Kurdes l'ont dit, moi j'ai écrit un papier, mais ils l'ont dit également, il s'agit de que l'armée syrienne soit déployée le long de la frontière avec la Turquie. Dans cette position, il pourrait y avoir des Kurdes, mais garde frontière sous tenue syrienne, qui est aussi l'intégration des forces de sécurité kurdes dans la police locale, etc. Bref, les Kurdes essaient de négocier la préservation d'un minimum, enfin plutôt d'un maximum pour eux, d'autonomie dont ils bénéficient depuis 2012. Et donc, je crois que c'est ça qui se négocie à Moscou. Erdogan agit de cette menace-là. Les Russes n'ont probablement pas intérêt, sauf si, effectivement, moi je n'exclus pas aussi qu'il y ait une politique un peu du pire qui soit menée à la fois par les Kurdes, qui refusent un petit peu ce dialogue, à la fois avec les pressions russe et de Damas, et puis finalement aussi une politique du pire menée par la Syrie, disant, écoutez, si vous voulez parvenir dans le giron, les Turcs vont s'occuper de vous, et puis après, on verra.
Michel Goya, les Turcs n'oseront pas s'attaquer au nord-est de la Syrie si il y a l'armée syrienne qui est là, officiellement ? Ça sera plus difficile.
Ce sera forcément plus compliqué. Après, bon, faut pas oublier un élément aussi, c'est que les Américains se retirent de Syrie, mais ils sont quand même très présents tout autour. Hein. Il y a quand même une base nucléaire à quelques dizaines de kilomètres de la frontière turque. Vous avez 50 têtes nucléaires à Incirlik, hein, américaines. Vous avez 45 000 soldats américains tout autour de la Syrie. Donc ça reste quand même un acteur majeur. Faut pas l'oublier. Ensuite, la Turquie a quand même mené deux opérations militaires à l'intérieur du territoire syrien, dans la région d'Al-Bab et puis dans la région d'Ifrin. Donc elle est en mesure, même si son armée n'est pas des difficultés, elle est quand même en mesure de mener des opérations importantes sur la frontière. Donc il y a une sorte de course de vitesse, effectivement, entre le régime et la Turquie, qui font monter aussi un peu les enchères. Et la Turquie, il faut quand même pas l'oublier, était au moins jusqu'à présent un adversaire d'Assad. Hein. C'est quand même la Turquie est devenue de fait là aussi le dernier sponsor un peu important de ce qui reste de la rébellion. Mmh. La plupart des rebelles, qui restent des rebelles arabes, sont sous giron turc en réalité maintenant. Hein. Mmh. Ce sont des supplétifs. Hein. Ils sont soit avec les Kurdes.
Ce sont des milices, en fait, pour le compte de la Turquie, quoi. C'est ce que vous...
Oui, oui, la majeure partie maintenant de ce qui reste de la rébellion arabe est sous le giron turc.
Est-ce qu'il y a un autre objectif français sur l'avenir politique du pays? Est-ce que la France affirme qu'elle est l'un des seuls pays à pouvoir parler à toutes les forces présentes dans la région? Est-ce que c'est vrai, Georges Malbruno?
Non, ça c'est du wishful thinking. La France est...
C'est le discours officiel. Hein,
c'est le discours officiel, mais hélas, je suis désolé de le dire, ça fait quelques années que le discours officiel français ne colle pas avec la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain.
On voit mal que Bachar el-Assad écoutait le président français, par
voilà,
exemple.
Voilà, je pense même, hélas, la France, effectivement, est sortie depuis un certain nombre d'années du jeu syrien. Elle avait encore cette petite présence là qui lui donnait un semblant de voix au chapitre. Là, elle va être complètement exclue. Et il y a un facteur qui pourrait la remettre dans le jeu, mais probablement pas dans le sens qu'elle le souhaiterait, c'est le facteur djihadiste français. Tôt ou tard, il se pourrait qu'il y ait des djihadistes français qui finissent dans les geôles de Bachar el-Assad. Et là, c'est une donnée nouvelle dans l'équation parce que c'est un levier ô combien important.
Ça devient une monnaie d'échange.
Une monnaie d'échange. Et quand on connaît, et nos gens dans les services de renseignement connaissent leurs homologues syriens, et là, je crois que là, justement, on pourrait renouer avec Bachar el-Assad, mais ça se ferait à leurs conditions et ce serait difficile. Alors là, c'est de la politique fiction, mais non, clairement, la France, pour nous autres, elle ne compte plus en Syrie.
Elle ne peut pas peser sur l'avenir du pays comme elle entend le faire depuis le début du conflit, Michel Goya.
Oh non, très clairement, mais on ne pèse pas grand-chose hein, depuis le début. Hein. Dans la coalition, nous représentons 5% de l'effort militaire, à peu près. Il y aurait eu que la France sur place, l'État islamique serait toujours, florissant, hein, serait toujours...
Un État territorialisé,
oui, c'est oui. Ce que... Oui, non, mais complètement. Mais non, alors, effectivement, il y a cette question des prisonniers. Kurdes aussi, hein. Les Kurdes ont dans leur géole quand même un certain nombre de djihadistes.
Et c'est un fardeau pour avoir 900 djihadistes étrangers. Il faut les nourrir, il faut les protéger. Oui, oui. C'est autant d'hommes qui ne sont
donc,
pas au combat.
Ça, c'est une vraie question et on essaie. Là, il y a toute tractation pour essayer de les transférer, par exemple, en Irak. C'est une vraie question à l'intérieur de la question. Quoi.
Oui. On en revient à la question de départ. Hein. La question, c'est les djihadistes français notamment. Comment traiter la question, Jean?
Comment traiter la question? C'est la traiter militairement par nos gens des forces spéciales qui peuvent en neutraliser un certain nombre. Et puis ceux qui sont à Idlib. Il y en a à Idlib. Bon, il faudra les traiter militairement. Et puis il y a ceux qui sont en prison chez les Kurdes. Et puis d'autres qui pourraient être en prison ailleurs. Et donc effectivement, ça va devenir, je crois, une monnaie d'échange entre. Peut-être entre la France et la Syrie et de ce point de vue-là, on ne sera pas en position de force quoi.
Merci Georges Malbruno et merci à vous également Michel Goya d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Vous pouvez participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.